bonjour à chacun. Je vous invite à écouter ou lire un texte dans l'évangile de Marc ce matin, chapitre 1er. Le récit de l'homme possédé d'un esprit impur. Ils entrent dans Capharnaüm, ou Capernaüm pour certains. S'étant rendu à la synagogue le jour du sabbat, Jésus se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour notre perte ? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattaient entre eux. Qu'est-ce donc ? Un enseignement nouveau ? Et quelle autorité ? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Nous trouvons cet épisode non seulement dans l'évangile de Marc, mais aussi dans l'évangile de Luc, où il suit là le récit de la prédication, première prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Nous sommes en présence du premier miracle de guérison rapporté dans ces deux évangiles, et il ne s'agit pas du moindre des miracles. On commence fort, puisqu'il est question ni plus ni moins que d'un exorcisme opéré dans la synagogue un jour de sabbat. Et Jésus, à partir de ce moment-là, ne pouvait plus être ignoré dans les deux villes proches qui étaient Nazareth et Capernaüm. Et le rythme des phrases écrites par les évangélistes, Marc comme Luc, est étonnamment rapide. Il n'y a rien à retirer de ces textes qui nous donnent justement les informations dont nous avons besoin, et pas davantage. Alors tout se passe d'abord dans la synagogue, durant le sabbat. Nous savons comment se passait ce type d'office, lecture d'un texte de la loi ou bien des prophètes, instruction sous le regard vigilant des scribes et des rabbins. C'est un peu le climat que l'on retrouve dans certains groupes de chrétiens aujourd'hui qui ont la parole apparemment spontanée, mais quand même un peu contrôlée par la pression des responsables qui veillent et qui jugent. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, précisément, d'une liberté surveillée que Jésus apporte un enseignement. Si Marc insiste dans son évangile sur l'enseignement de Jésus, il ne le développe pas pour autant. On ne sait pas du tout, d'ailleurs, en quoi consistait cet enseignement apporté à Capernaüm, mais l'évangéliste insiste pourtant pour montrer l'autorité de Jésus par ses paroles. On comprend très bien aussi dans le texte de Marc que l'enseignement du Seigneur surpasse celui des scribes. C'est dit de manière très franche. Cela me rappelle aussi l'époque où Jésus avait 12 ans et était au temple et où il surprenait même les docteurs de la loi par son intelligence. Les plus instruits des Israélites de l'époque, donc des docteurs, des scribes, des pharisiens aussi, gardaient pour eux la connaissance afin de conserver aussi l'autorité sur le peuple. Et Jésus, lui, manifeste une autorité nouvelle, une autorité élargie. Le terme autorité est très fort. Il correspond au pouvoir souverain dont parle notamment le prophète Daniel au chapitre 7 de son livre, lorsqu'il dit « Dans mes visions nocturnes, je vis alors arriver avec les nuées du ciel quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il s'avança vers le vieillard et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les langues se mirent à le servir. Sa domination durera toujours, elle ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Dans le récit de Marc, Jésus va manifester son autorité. Il va manifester sa domination sur un esprit impur. Ainsi donc, l'évangile commence par un exorcisme, tout simplement. Tout simplement, mais c'est un combat aussi entre des puissances qui sont surnaturelles. Il faut pouvoir saisir le sens de cet épisode. Jésus est d'emblée présenté comme un exorciste. Mais très vite, on constate qu'il n'est pas que cela. Il vient de manière plus générale changer les mentalités, les renouveler, mais les transformer. C'est pourquoi Jésus adopte une pratique qui est déjà répandue. Toutes les civilisations anciennes ont une interprétation du mal, de la maladie et de la mort. Par exemple, l'Égypte, mais aussi la Babylonie, la Syrie, la Grèce, le pays de Canaan, tous ces peuples croient que la maladie est une possession de l'homme par des esprits, par des démons, par des forces surnaturelles, occultes, qui flottent un peu dans l'air et tombent sur tel ou tel. Un peu comme on lit dans l'évangile de Matthieu aussi au chapitre 12, que quand un esprit impur fut sorti d'un être humain, il passa par des lieux arides, nous dit le texte, il chercha du repos sans en trouver et se dit à un moment « Je dois retourner d'où je suis sorti. » Donc il s'en va chercher sept autres esprits plus mauvais que lui qui entrèrent là et s'installèrent de sorte que la condition dernière de cet homme-là fut pire même que la première. Eh bien, pour maîtriser ces esprits, il faut faire appel à un sorcier, à un magicien ou à un gourou quelconque. Et à l'aide de formules plus ou moins secrètes ou compliquées, ces sorciers font et défont les sorts, les envoûtements, les possessions. Vous noterez au passage que ces pratiques sont loin d'être mortes aujourd'hui, même après des siècles de rationalisme, même dans nos régions où, à force d'en entendre parler, on a l'impression que les sorciers en tout genre, les guérisseurs de tout poil, les arrêteurs de feu, et j'en passe, sont plus nombreux que les coins de nos rues. Eh bien, voilà le décor dans lequel Jésus arrive. Les écrits bibliques nous parlent de Satan qui personnifie les forces du mal. Mais Satan n'est pas un dieu pour autant. Parce que Satan est subordonné à quoi ? À la puissance de Dieu. Satan est subordonné à la puissance de Dieu. Et le livre de Job le montre, parmi d'autres, il le démontre avec clarté. Le rôle de Satan est donc simplement d'être un adversaire qui nous demande par ses attaques, par ses tromperies, pour le dire brièvement, de faire le choix entre le bien et le mal. Et par là même, il est un adversaire de Dieu et du plan de Dieu pour les hommes. Dans le livre des Actes, on trouve cette phrase au chapitre 10. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » La particularité encore de Jésus que l'on retrouve dans ce texte de Marc et rappelée dans le texte des Actes, c'est celle d'être un exorciste. Jésus chasse les démons. Cette particularité est rappelée. Il ne faut pas rejeter dans notre tendance à chercher à tout prix des explications raisonnables à toutes sortes de maladies et de comportements particuliers ce qui est du miracle et de la manifestation puissante de Dieu. Il y a bien une guerre entre l'Esprit Saint et les esprits impurs partisans de Satan. Cette guerre a lieu aujourd'hui. Cela dit, Jésus n'est ni un magicien, ni un sorcier. Ces miracles de guérison sont inséparables de la proclamation de la bonne nouvelle, qui reste l'essentiel de son action. Les miracles, et notamment ceux de guérison, sont signes que, en Jésus-Christ, le règne de Dieu fait irruption dans l'histoire du monde. La lutte qui a commencé et qui se poursuit encore aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une marche vers la victoire finale. Et Jésus, en affrontant la maladie et les esprits mauvais, ne donne ni une explication sur l'origine du mal, ni une explication sur sa nature. Par contre, il démontre son pouvoir divin de libération totale dans tous les domaines, physique, psychologique ou spirituel. Et la façon que Marc a de rédiger l'histoire permet aussi de le comprendre. Pourquoi ? Parce que l'esprit mauvais dont il est question ici, c'est Satan, que Jésus a déjà rencontré au désert. Mais cet épisode-là n'a pas retenu l'attention de Marc, qui préfère, lui, plutôt parler du ministère public de Jésus. Quant à Luc, il parle bien de la rencontre de Jésus et de Satan au désert. Rencontre qui n'est séparée du récit de l'exorcisme dont nous parlons ce matin que par le récit de l'intervention de Jésus dans la synagogue de Nazareth, sa première prédication là-bas. Les deux événements sont donc très proches dans le temps. Jésus, l'exorciste, entre alors en conflit avec l'homme possédé. C'est à qui soumettra l'autre ? Et pour soumettre, eh bien, il faut commencer par nommer. Il faut désigner. Est-ce que vous allez pouvoir agir contre quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Non, il faut identifier l'adversaire. Mais ici, l'esprit mauvais connaît l'identité de Jésus. « Tu es le Saint de Dieu, » dit-il, vous vous souvenez. « Tu es le Saint de Dieu, » dit l'esprit mauvais. « Tu es le Messie. » Mais en le nommant, l'esprit mauvais n'arrive pourtant pas à maîtriser le Seigneur. Donc il faut connaître celui contre lequel on veut combattre, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc l'esprit ne peut pas maîtriser le Seigneur parce qu'aussitôt, il craint pour lui-même. Voilà l'autorité du maître qui se manifeste d'une façon inattendue, et là le démon est chassé. Alors il ne faut pas s'arrêter nécessairement au phénomène spectaculaire en lui-même, l'important n'est pas là, même si c'est étonnant et si c'est frappant. Et de fait, c'est pour frapper les imaginations que les choses se déroulent ainsi, c'est pour attirer le regard et aller encore plus loin que ce qui est vu. Ce qui est à retenir ici, essentiellement, c'est l'ordre impérieux de Jésus, « Tais-toi !» qu'il adresse à l'esprit mauvais, « Tais-toi !» ou bien « Silence !» dans d'autres traductions. Ou même, j'ai lu encore, « Sois muselé !» Jésus coupe énergiquement la parole au moment où le malin révèle justement son identité. Jésus n'est pas dans l'argumentation avec le diable. Il ordonne, il domine. Il faut que nous soyons prémunis contre cette tendance à parler avec le diable nous-mêmes lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous nous sentons attaqués. Jésus ordonne au diable, il domine. Et on essaie de trouver aussi un sens, une explication à ce silence imposé. Ce n'est pas seulement aux démons que Jésus demande de se taire sous prétexte qu'il ne supporterait pas que son nom soit révélé. Non, c'est aussi, et vous le lirez un peu après dans le texte de Marc 1, aux disciples et aux miraculés que notre Seigneur impose le silence, juste un peu plus loin, quelques versets plus loin, dans le même chapitre. Alors peut-être que Jésus craint que le bavardage se transforme en commérage ou en superstition. Jésus ne doit pas favoriser non plus les caricatures qui encombrent déjà son image. Il ne doit pas favoriser les ragots, mais bien plutôt produire la foi. Peut-être Jésus craint-il aussi de s'attirer trop tôt les foudres des responsables religieux par la publicité qui serait faite à ses miracles. Dans la fièvre de l'attente d'un Messie, on espère trop souvent un sauveur mythique, politique, magique. Et c'est pourquoi Pierre, à un moment donné, bien plus tard, refuse l'idée même que le Christ puisse mourir, puisqu'il est le Messie. Jésus ne veut pas encourager une idée fausse du Sauveur que le populisme de l'époque espère. Il veut que ses contemporains corrigent leur vision et démontrent ou découvrent progressivement ce qu'est sa mission réelle et unique. Le vrai Messie, c'est celui qui accomplit le dessein, le plan de Dieu et qui apporte le salut éternel. C'est lui, le Messie, celui que l'on attend. Le Messie, ce n'est pas l'homme du moment qui a des pouvoirs plus grands que ceux des autres. Non, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et seule la croix et la résurrection révéleront parfaitement ce qu'est le Messie de Dieu. Ce ne sont pas des discours, ni des miracles, ni des exorcismes, mais le don parfait de sa propre vie qui révéleront la vérité sur le Messie, sur son identité, et il faut du temps pour comprendre cela. Nous ne sommes qu'au début de l'Évangile, au début du ministère public de Jésus dans ce chapitre premier de Marc. Voilà aussi une manière de rendre l'autorité à Dieu et non au raisonnement humain. Autorité, c'est un mot qui dérive du mot auteur. Ça vous semble peut-être évident, finalement, quand on le dit comme ça, quand on l'entend. C'est l'auteur, c'est le créateur, c'est l'inventeur qui peut avoir autorité sur ce qui est créé et inventé. L'autorité de Jésus, qui ce jour-là fascine le public, va bien au-delà de l'enseignement que ce public écoute. Au cœur du sabbat et de la synagogue, Jésus vient manifester son autorité en maîtrisant les forces du mal. Mais ce qui peut surprendre, c'est que dans la synagogue même, et donc dans l'assemblée des croyants qui sont réunis là le jour du sabbat, on trouve un homme qui est possédé de l'esprit du mal. Dans la synagogue. L'assemblée des croyants est constituée de gens divers et qui peuvent demeurer plus ou moins secrètement sous l'emprise du mal. Alors je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il y a au milieu de nous des gens qui sont possédés, mais je dis simplement que nous avons tous nos fragilités, nos travers, nos maladies, plus ou moins visibles, plus ou moins cachées, plus ou moins honteuses. Je rappelle simplement que l'assemblée est constituée d'êtres humains imparfaits. Et Jésus commence son ministère dans la synagogue parce qu'il veut que son autorité soit reconnue premièrement là où se réunissent les croyants. Il veut que son autorité soit évidente dans son Église, pour le dire ainsi. Le mot n'est pas employé là. Dans la communauté des croyants. Et vous avez dû comprendre par votre expérience que nous ne voyons pas toujours l'autorité du Seigneur dans l'Église. Il suffit de voir les actes de la vie de certains chrétiens ou d'entendre certains théologiens aujourd'hui pour affirmer que l'autorité du Christ est parfois contestée par ceux-là même qui devraient le plus en dépendre, chrétiens comme théologiens. Si l'Église ne confesse pas l'autorité du Christ, alors elle n'a plus de raison, elle n'a plus de pouvoir, de puissance pour annoncer la bonne nouvelle. Autre chose importante pour nous aujourd'hui et plus personnelle, Jésus peut nous visiter. Et il le fait. Il peut nous guérir et il le fait. Et si ce que nous croyons est un obstacle dans notre vie, nous pouvons demander à Christ d'imposer silence à ce qui nous éloigne de lui, ce qui nous sépare de lui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, agit avec autorité. Il convient peut-être maintenant de savoir ce que nous comprenons par autorité. Je finirai par là. L'exemple des Corinthiens, dans les deux livres que nous avons, qui nous sont restés, qui sont là dans la Bible, l'exemple des Corinthiens peut nous fournir quelques éléments. Rappelons déjà que l'image que les Corinthiens ont d'eux-mêmes est celle d'une assemblée mature, en possession de tous les dons nécessaires pour sa croissance, bien enseignée et autosuffisante. Les Corinthiens matures, ça reste davantage une question qu'une certitude. Si vous avez lu le livre, vous vous en serez aperçu, surtout la première épître. En beaucoup de choses, ils agissent comme des enfants. Certes, avec les années qui passent, l'homme devient plus mature, dit-on, au moins on l'espère. C'est vrai dans le monde séculier comme dans le monde chrétien. Mais devenir mature, à notre sens, c'est croître pour devenir adulte, c'est progresser, c'est être édifié, être affermi, être perfectionné, être sanctifié. Il faut du temps, certainement, pour répondre à toutes ces exhortations que nous pouvons lire à travers les épîtres, principalement, de Paul, mais aussi de Pierre. Chez les Corinthiens, à bien lire la situation à travers les textes que nous avons, il y a des querelles et des jalousies. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui n'ont rien inventé. Comment ces Corinthiens peuvent-ils croire pourtant qu'ils sont spirituellement mûrs tout en démontrant une telle immaturité? Ils ne sont pas dirigés par l'amour, mais par un esprit de compétition. Ils se comparent les uns aux autres pour voir qui a le meilleur pédigré. C'est comme ça que le livre, la première épître commence. Et donc pour voir qui est le meilleur conducteur dans l'assemblée. Les Corinthiens ont chacun leur gourou, qu'ils placent déjà sur un piédestal au-dessus de tous les autres. Le problème, c'est que leur conception de la direction dans l'assemblée vient du monde et pas de Dieu. Mais nous parlons de l'Église, quand même, dont les critères de direction sont différents de ceux du monde, de ceux qui existent dans le monde. Paul ne dit pas que nous n'avons pas besoin de conducteurs. Il ne dit pas non plus que les apôtres et les prédicateurs n'ont pas de place dans la direction de l'Église. Le problème que Paul montre du doigt, c'est que les conducteurs qui sont à Corinthe ont un statut qui semble supérieur à celui de Jésus-Christ. À un moment de l'année où l'on se rappelle tout spécialement que Jésus est venu dans le monde et qu'il a exercé son ministère avec autorité, une autorité libératrice manifestée dans le récit évangélique pour nous par un récit d'exorcisme, Marc chapitre 1er, et bien particulièrement en ce moment, nous devrions être choqués par l'attitude des Corinthiens. Alors l'apôtre Paul demande ce qu'est Paul lui-même, ce qu'est Apollos, ce qu'est Céphas. Je vous renvoie au premier chapitre des Corinthiens. Normalement, ils sont bien connus, mais vous le retrouverez facilement. Il ne demande pas qui ils sont, tous ces personnages-là. Il demande ce qu'ils sont. Il demande ce qu'ils sont. Il ne veut pas parler, en fait, des personnages, mais des fonctions et des dons. À quoi servent-ils donc? Ils sont tous là, comme serviteurs. Et Paul utilise une métaphore de la vie quotidienne pour illustrer ce qu'il dit. D'abord, souvenez-vous, il dit que l'un plante et que l'autre arrose. Alors lequel aurait le plus d'autorité? Qu'est-ce qui est important dans ce contexte des Corinthiens? De savoir qui est là ou de savoir ce que chacun fait? Est-ce que c'est important de savoir qui a le plus d'autorité? Un plante, l'autre arrose. Lequel a le plus d'autorité? Aucun des deux. Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Est-ce que la plante grandira si elle n'est pas plantée? Non. Objectivement, non. Est-ce qu'elle se développera si elle n'est pas arrosée? Pas davantage. Les deux tâches sont vitales, il n'y en a pas une qui soit plus grande que l'autre. Aucune n'est plus importante que l'autre. Celui qui plante et celui qui arrose sont tous les deux des serviteurs de Dieu. Et c'est pour cela que Paul demande non pas qui sont ces personnages cités par les Corinthiens, Paul lui-même, ou Céphas, ou Apollos. Non, il demande ce qu'ils sont. Regardez autour de vous, ce matin, maintenant, et que voyez-vous? J'espère que vous ne voyez pas que des chaises sur lesquelles sont assises des personnes que vous avez plus ou moins l'habitude de rencontrer. En vérité, vous devriez voir autour de vous une équipe d'ouvriers appelés par Dieu pour faire croître son peuple. Je ne présente pas autre chose qu'un principe de vitalité dans l'Église. Et nous avons tous la même importance dans ce cadre-là, dans cette entreprise. Il n'y a pas de chrétien plus bas qu'un autre. Il n'y a pas de chrétien plus haut qu'un autre, même s'il est sur une estrade. Il n'y a pas de chrétien à mi-temps dans l'Église. Certains plantent la graine de l'Évangile à travers leurs paroles et leurs actions. D'autres accompagnent ceux qui se tournent vers le Seigneur. D'autres continuent à arroser pour que celui qui a fait un pas de foi porte des fruits. Et cette égalité dans le service n'est pas toujours évidente. Et l'évangéliste Luc rapporte ceci. Il se leva parmi les disciples une contestation, dit-il, lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Et Jésus leur dit, les rois des nations les dominent en seigneurs et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais chez vous, rien de semblable. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune et celui qui dirige comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et écoutez encore ce que Jésus dit aux disciples alors qu'il est venu leur laver les pieds. L'évangile de Jean, bien sûr. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, parce que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le fassiez. La véritable autorité dans l'Église repose dans celui qui sert parce que le Seigneur lui-même est venu pour servir. Et celui qui sert est utile car Dieu lui demande de construire l'Église, ni plus ni moins. Les conducteurs n'ont pas à être placés sur un piédestal ou, à l'inverse, plus bas que terre. Nous sommes chacun des ouvriers pour Dieu. Je rappelle là encore un principe de vitalité que vous avez déjà entendu à de multiples reprises. Nous sommes chacun ouvriers pour Dieu, servant ensemble le même projet de Dieu, à savoir l'Église. Les conducteurs sont serviteurs et c'est dans le service qu'ils trouvent leur autorité. Amen. Nous prions le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai que si nous lisons peut-être avec habitude ou un peu trop rapidement ces textes qui nous parlent de guérison, d'exorcisme, eh bien nous pouvons considérer ces faits et nous réjouir que tu es celui qui se manifeste par des gestes miraculeux, par des gestes inabordable peut-être pour nous, Seigneur, quelquefois. Nous pouvons nous réjouir de tout cela, de ce que tu es présent aussi aujourd'hui, et de ce que tu peux guérir, de ce que tu peux chasser les démons. Mais nous voulons voir autre chose encore au-delà de tous ces faits qui nous sont présentés et qui sont importants. Nous voulons voir ton enseignement, Seigneur. Nous voulons te découvrir toi-même. Nous voulons voir qui tu es et quelle est ton autorité sur la création. Seigneur, c'est toi qui as créé. C'est toi qui as construit toutes choses. Tu as autorité, Seigneur, sur toutes ces choses que tu as faites, que tu as décidées. Et aujourd'hui, tu nous donnes aussi ton autorité. Non pas une autorité mal employée qui nous servirait juste à affirmer notre position supérieure, peut-être, au moins estime-t-on, mais une autorité qui vient de toi, une autorité de service. Nous voulons, Seigneur, simplement voir ce que tu as fait, comment tu l'as fait, comment tu as accompli toutes ces choses sur la terre par la personne de Jésus, et comprendre tout cela et vivre de la même manière aujourd'hui. Nous voulons nous mettre au service les uns des autres pour la gloire de ton nom et la croissance de ton Église. Puisses-tu, Seigneur, nous donner la vie aujourd'hui et nous permettre de vivre véritablement selon ce que tu attends de nous. Que gloire te soit rendue par nos vies et dans ton Église. Amen. Voilà, je pense que c'est le temps des annonces.